Les seigneurs, évêques et notables du Yorkshire, dans le fond de la pièce, se regardaient entre eux, nullement effrayés, mais atterrés de cette colère sans force qui s'égarait si loin de son objet, et leur découvrait, en même temps que les difficultés du royaume, le caractère du roi. Était-ce donc là le souverain qui leur demandait subside pour son trésor, auquel ils devaient obéissance en toutes choses et d'aventurer leur vie quand il les requérait à ses combats? Lord Mortimer avait eu certes quelques bonnes raisons de se rebeller. Les conseillers intimes eux-mêmes paraissaient mal à l'aise, bien qu'ils connussent cette habitude du roi, et qui se retrouvait jusque dans sa correspondance, de refaire le compte de tous les ennuis de son règne à chaque nouveau désagrément qui survenait. Le chancelier Baldock se frottait la pomme d'Adam, machinalement, à l'endroit où s'arrêtait sa robe d'archidiacre. L'évêque d'Exeter, lord trésorier, se rongeait l'ongle du pouce à petits coups de dents et observait ses voisins d'un regard sournois. Seul Hugh le Despenser le jeune, trop frisé, trop paré, trop parfumé pour un homme de 33 ans, montrait de la satisfaction. La main du roi posée sur son épaule prouvait à tous son importance et sa puissance. Le nez bref, la lèvre sinueuse, abaissant et relevant le menton comme un cheval au piaffé, il approuvait chaque déclaration d'Édouard d'un petit raclement de gorge, et son visage semblait dire « Cette fois, la coupe est pleine, nous allons prendre des mesures sévères !» Il était maigre, long de taille, assez étroit de torse et avait une mauvaise peau sujette aux inflammations. « Messire de Bouville, » dit soudain le roi Édouard, se retournant contre l'ambassadeur, « vous répondrez à Monseigneur de Valois que le mariage qu'il nous a proposé, et dont nous avons apprécié tout l'honneur, décidément ne se fera pas. Nous avons d'autres vues pour notre fils aîné. Ainsi en sera-t-il terminé avec une déplorable coutume qui veut que les rois d'Angleterre prennent leurs épouses en France sans qu'il leur en vienne jamais aucun bienfait. » Le gros Bouville pâlit sous l'affront et s'inclina. Il adressa à la reine un regard désolé et sortit. Première conséquence, et bien imprévue, de l'évasion de Roger Mortimer, le roi d'Angleterre rompait avec les alliances traditionnelles. Il avait voulu, par ce trait, blesser sa femme, mais il avait blessé en même temps ses demi-frères, Norfolk et Kent, dont la mère était française. Les deux jeunes gens regardèrent leur cousin Torcol, lequel haussa un peu plus l'épaule d'un mouvement d'indifférence résignée. Le roi venait, sans réflexion, de s'aliéner à jamais le puissant comte de Valois, dont chacun savait qu'il gouvernait la France au nom de son neveu Charles le Bel. Le jeune prince Édouard, toujours près de la fenêtre, immobile et silencieux, observait sa mère, jugeait son père. C'était de son mariage, après tout, qu'il s'agissait, et dans lequel il n'avait mot à dire. Mais si on lui avait demandé ses préférences entre son sang d'Angleterre et celui de France, il eût penché pour ce dernier. Les trois plus jeunes enfants avaient cessé de jouer. La reine fit signe aux chambrières qu'on les éloigna. Puis, très calmement, les yeux dans ceux du roi, elle dit « Quand un époux est son épouse, il est naturel qu'il la tienne pour responsable de tout. » Édouard n'était pas homme à répondre de front.
« Toute ma garde de la tour enivrée à mort » cria-t-il. « Le lieutenant envolé avec ce félon et mon constable malade à périr de la drogue dont on l'a abreuvé. À moins qu'il ne feigne la maladie, le traître, pour éviter le châtiment qu'il mérite. Car c'était à lui de veiller à ce que mon prisonnier ne s'échappât. Vous entendez, Winchester ?»
Hugh le Despenser, le père, depuis un an comte de Winchester et qui était responsable de la nomination du constable Seagrave, se courba au passage de l'orage. Il avait l'échine étroite et maigre, avec une voussure en partie naturelle et en partie acquise dans une longue carrière de courtisan. Ses ennemis l'avaient surnommé la belette. La cupidité, l'envie, la lâcheté, l'égoïsme, la fourberie et de plus toutes les délectations que peuvent procurer ses vices semblaient s'être logées dans les rides de son visage et sous ses paupières rougies. Pourtant, il ne manquait pas de courage, mais il ne se connaissait de sentiments humains qu'envers son fils et quelques rares amis dont Seagrave précisément faisait partie.
« My lord, » prononça-t-il d'une voix calme, « je suis certain que Seagrave n'est en rien coupable.
Il est coupable de négligence et de paresse. Il est coupable de s'être laissé berner. Il est coupable de n'avoir rien deviné du complot qui se montait sous son nez. Il est coupable de malchance, peut-être. Je ne pardonne pas la malchance. Bien que Seagrave soit de vos protégés, Winchester, il sera châtié. On ne dira donc point que je ne tiens pas la balance égale et que mes faveurs ne vont qu'à vos créatures. Seagrave remplacera le lord de Wigmore en prison. Ses successeurs ainsi veilleront à faire meilleure garde. Voilà, mon fils, comment l'on gouverne, ajouta le roi en s'arrêtant devant l'héritier du trône. L'enfant leva les yeux vers lui et les rabaissa aussitôt. Hugues le Jeune, qui savait assez bien faire dévier les colères du roi, renversa la tête en arrière et dit, en regardant les poutres du plafond, « Celui qui, par trop vous nargue, cher sire, est l'autre félon, cet évêque Orleton qui a tout apprêté de sa main et paraît vous redouter si peu qu'il n'a pas même pris la peine de s'enfuir ou de se cacher. » Édouard regarda Hugues le Jeune avec reconnaissance et admiration. Comment pouvait-on ne pas être ému par la vue de ce profil, par ces belles attitudes que Hugues prenait en parlant, par cette voix haute, bien modulée, et puis cette manière à la fois tendre et respectueuse qu'il avait pour dire « cher sire » à la française, comme autrefois le gentil Gaveston que les barons et les évêques avaient tué. Mais à présent, Édouard était un homme mûr, averti de la méchanceté des hommes, et qui savait qu'on ne gagnait pas à composer. On ne le séparerait pas de Hugues, et tous ceux qui voudraient s'opposer seraient frappés à tour de rôle, impitoyablement. Je vous annonce, mes lords, que l'évêque Orleton sera traduit devant mon parlement pour y être jugé et condamné. Édouard croisa les bras et attendit l'effet de ses paroles. L'archidiacre chancelier et l'évêque trésorier, bien qu'ils fussent les pires ennemis d'Orleton, avaient sursauté par solidarité de gens d'église. Henri Torcol, homme sage et pondéré qui, pensant au bien du royaume, ne pouvait s'empêcher de rappeler le roi à la raison, fit observer calmement qu'un évêque ne pouvait être traduit que devant une juridiction ecclésiastique constituée par ses pairs. « Il faut un début à toute chose, Leicester. La conspiration contre les rois n'est pas, que je sache, enseignée par les saints évangiles. Puisque Orleton oublie ce qu'il faut rendre à César, César s'en souviendra pour lui. « Encore une des grâces que je dois à votre famille, madame, » continua le roi à l'adresse d'Isabelle, « puisque c'est votre frère Philippe le Cinquième qui a fait nommer par son pape français et contre mon vouloir cette Adam Orleton à l'évêché de Hereford. » « Soit. Il sera le premier prélat à être condamné par la justice royale et son châtiment sera exemplaire. » « Orleton ne vous était point hostile, naguère, mon cousin, » insista Torcol. Et il n'aurait eu aucune raison de le devenir si vous ne vous étiez pas opposé, ou si l'on ne s'était opposé dans votre conseil, à ce que le Saint-Père lui donna la mitre. C'est un homme de grand savoir et d'âme forte. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui, justement parce qu'il est coupable, vous le rallier plus facilement par un acte de mansuétude que par une action de justice qui va, entre tous vos embarras, attiser l'hostilité du clergé. Mansuétude, clémence. Chaque fois que l'on me nargue, chaque fois que l'on me provoque, chaque fois que l'on me trahit, vous n'avez que ces mots à la bouche, Leicester. On m'a conseillé, et j'ai eu grand tort d'écouter les avis, on m'a supplié de gracier Wigmore. Avouez donc que si j'en avais usé avec lui comme avec votre frère, ce rebelle aujourd'hui ne serait pas en train de courir les chemins.
Torcol haussa sa grosse épaule, ferma les yeux et eut une moue lassée. Combien était irritante chez Édouard cette habitude qu'il croyait royale d'appeler ses parents ou ses principaux conseillers par les noms de leur comté et de s'adresser à son cousin germain en lui criant « Leicester » au lieu de dire simplement « mon cousin » comme chacun dans la famille royale le faisait, comme la reine elle-même. Et ce mauvais goût de rappeler à tout propos la mort de Thomas de Lancastre comme s'il en tirait gloire. Ah, l'étrange homme et le mauvais roi qui s'imaginait pouvoir décapiter ses proches parents sans s'attirer de ressentiment, qui croyait qu'une embrassade suffisait à effacer un deuil, qui exigeait le dévouement de ceux-là même qu'il avait blessé et voulait trouver partout fidélité, alors qu'il n'était lui-même que cruelle inconséquence.
« Sans doute avez-vous raison, my lord, » dit Torcol. « Et puisque vous régnez depuis 16 ans, vous devez savoir ajuster vos actes. » Traduisez donc votre évêque devant le Parlement, je n'y mettrai point d'obstacle.
et il ajouta entre les dents, pour n'être entendu que du jeune comte de Norfolk, « Ma tête est de travers, certes, mais je tiens toutefois à la garder où elle se trouve. »
« Car c'est menarguer, vous en conviendrez, » continuait Édouard en fouettant l'air de la main, « que de s'évader en perçant les murs d'une tour que j'ai fait moi-même construire pour qu'on ne s'en échappe pas. »
« Peut-être, sire mon époux, » dit la reine, « vous êtes-vous plus occupé quand vous la bâtissiez de la gentillesse des maçons que de la solidité de la pierre. »
Le silence tomba d'un coup sur l'assistance. La pointe était brutale et soudaine. Chacun retenait son souffle et regardait, qui avec déférence, qui avec haine, cette femme de forme assez fragile, droite sur son siège, seule, et qui tenait tête de telle façon. Les lèvres un peu écartées, la bouche entrouverte, elle découvrait ses dents fines, pressées les unes contre les autres, de petites dents carnassières, bien coupantes. Isabelle était visiblement satisfaite du coup qu'elle venait de porter. Hugues le jeune était devenu écarlate. Hugues le père feignait de n'avoir pas entendu. Édouard allait se venger certainement, mais de quelle manière? La riposte tardait à venir. La reine observait les gouttelettes de sueur qui perlaient au front de son mari. Rien ne répugnait davantage à une femme que la sueur d'un homme qu'elle a cessé d'aimer.
« Kent !» cria le roi. « Je vous ai fait gardien des 5 ports et gouverneur de Douvres. » « Que gardez-vous en ce moment? Pourquoi n'êtes-vous pas sur les côtes que vous avez à commander et sur lesquelles notre félon doit chercher à s'embarquer ?»«
Sire, mon frère, » dit le jeune comte de Kent tout éberlué, « c'est vous qui m'avez donné l'ordre de vous accompagner en votre voyage. Eh bien, à présent, je vous en donne un autre qui est de rejoindre votre comté, d'en faire battre les bourgs et les campagnes à la recherche du fugitif, et de veiller vous-même à ce qu'on visite tous les bateaux qui seront dans les ports. »
Qu'on mette des espions à bord des bâtiments et qu'on prenne le dit Mortimer, vif ou mort, s'il venait à y monter, dit Hugues le jeune.
C'est justement conseillé, Gloucester, approuva Édouard. Quant à vous, Stapledon.
L'évêque d'Exeter ôta son pouce de ses dents et murmura.
My lord.
Vous allez à toute hâte regagner Londres. Vous irez à la tour sous la raison d'y vérifier le trésor. Vous prendrez la tour sous votre commandement et surveillance jusqu'à ce qu'un nouveau constable soit nommé. Baldock établira sur l'heure pour l'un et l'autre les commissions qui vous feront obéir.
Henri Torcol, les yeux vers la fenêtre et l'oreille contre l'épaule, semblait rêver. Il calculait. Il calculait que 6 jours s'étaient écoulés depuis l'évasion de Mortimer, qu'il en faudrait 8 au moins pour que les ordres commencent à entrer en exécution, et qu'à moins d'être un fol, ce qui n'était naturellement pas le cas de Mortimer, celui-ci aurait à coup sûr quitté le royaume. Il se félicitait aussi de s'être solidarisé avec la plupart des évêques et des seigneurs qui, après Boroughbridge, avaient obtenu la vie sauve pour le baron de Wigmore. Car à présent que celui-ci s'était évadé, l'opposition aux Despenser allait peut-être retrouver le chef qui lui manquait depuis la mort de Thomas de Lancastre, un chef de plus efficace, plus habile et plus fort que ne l'avait été Thomas. Le dos royal ondula. Édouard pivota sur les talons pour se replacer face à sa femme.
Et si, madame, je vous tiens justement pour responsable. Et d'abord, lâchez cette main que vous ne cessez de serrer depuis que je suis entré. Lâchez la main de Lady Jeanne, cria Édouard en frappant le sol du pied. C'est fournir caution à un traître que de mettre tant d'ostentation à en garder l'épouse auprès de soi. Ceux qui ont aidé à l'évasion de Mortimer pensaient bien qu'ils avaient l'agrément de la reine. Et puis, on ne s'évade pas sans argent. Les trahisons se paient, les murs se percent avec de l'or. De la reine à sa dame de parage, de la dame de parage à l'évêque, de l'évêque aux rebelles, le chemin est facile. Il va me falloir vérifier plus étroitement votre cassette.
Sire, mon époux, je crois que ma cassette est assez bien contrôlée, dit Isabelle en désignant Lady le Despenser. Hugues le jeune semblait s'être soudain désintéressé du débat. Enfin, la colère du roi se tournait, comme à l'habitude, contre la reine, et Hugues se sentait un peu plus triomphant. Il prit un livre qui se trouvait là et que Lady Mortimer lisait à la reine avant l'entrée du comte de Bouville. C'était un recueil des laits de Marie de France. Le signet de soie marquait ce passage. En Lorraine, ni en Bourgogne, ni en Anjou, ni en Gascogne, en ce temps ne pouvait trouver si bon ni si grand chevalier.
Sous ciel n'était dame ou pucelle, qui tant fut noble et tant fut belle, qui n'en voulut amour avoir.
La France, toujours la France. Elle ne lise que ce qui touche à ce pays, se disait Hugues. Et quel est dans leur pensée ce chevalier dont elle rêve?
Le Mortimer, sans doute.
My lord, je ne surveille pas les aumônes, dit Aliénor le dispenseur.
Le favori releva les yeux et sourit. Il féliciterait sa femme pour ce trait.
Je vois donc qu'il me faudra aussi renoncer aux aumônes, dit Isabelle. Il ne me restera bientôt plus rien d'une reine, pas même la charité.
Et il faudra aussi, madame, pour l'amour que vous me portez et que chacun voit, poursuivit Édouard, vous séparer de Lady Mortimer, car nul ne comprendrait plus dans le royaume qu'elle resta auprès de vous désormais. Cette fois, la reine pâlit et se tassa un peu sur son siège. Les grandes mains nettes de Lady Jeanne se mirent à trembler.
Une épouse, Édouard, ne peut être tenue de partager en tout les actes de son époux. J'en suis assez bien l'exemple. Veuillez croire que Lady Mortimer est aussi peu associée aux fautes de son mari que je le suis moi-même à vos péchés, s'il vous arrive d'en commettre.
Mais cette fois, l'attaque ne réussit pas.
Lady Jeanne se rendra au château de Wigmore, lequel sera désormais sous la surveillance de mon frère Kent, et ceci jusqu'à ce que j'aie résolu ce qu'il me plaira de faire des biens d'un traître dont je ne veux plus que le nom soit prononcé en ma présence avant la sentence de mort.
Je pense, Lady Jeanne, que vous préférerez vous retirer de gré plutôt que de force.
Allons, dit Isabelle, je vois que l'on me veut tout à fait seul.
Que parlez-vous de solitude, madame ?
Dit Hugues le Jeune de sa belle voix modulée.
Ne sommes-nous pas tous vos amis fidèles, étant ceux du roi ? Et madame Aliénor, ma dévouée femme, ne vous est-elle pas de constante compagnie ? C'est un joli livre que vous possédez là, ajouta-t-il en montrant le volume, et finement enluminé. Me ferez-vous la grâce de me le prêter ?
Mais certes, certes, la reine vous le prête, dit le roi.
« N'est-ce pas, madame, que vous nous faites le plaisir de prêter ce livre à notre ami Gloucester ?»«
Bien volontiers, sire mon époux, bien volontiers. Et je sais, quand il s'agit de notre ami le dispenseur, ce que prêter veut dire. Il y a 10 ans que je lui ai prêté ainsi mes perles, et vous voyez qu'il les porte toujours au cou. »
Elle ne désarmait pas, mais le cœur lui battait à grands coups dans la poitrine. Elle allait être seule désormais à supporter les quotidiennes blessures. Mais si un jour elle parvenait à se venger, elle n'oublierait rien.
Hugues le Jeune posa le livre sur un coffre et fit un signe d'intelligence à sa femme. Les laits de Marie de France iraient rejoindre le fermail d'or à Lion de Pierrerie, les 3 couronnes d'or, les 4 couronnes enrichies de rubis et d'émeraudes, les 120 cuillères d'argent, les 30 grands plats, les 10 anapes d'or, la garniture de chambre en drap d'or losanger, le char pour 6 chevaux, le linge, les bassins d'argent, les harnais, les ornements de chapelle, toutes ces choses merveilleuses dont de son père ou de ses proches qui avaient formé la corbeille de noces de la reine et qui étaient passées aux mains des amants d'Édouard, à Gaveston d'abord, au dispenseur ensuite. Même le grand manteau de drap de Turquie, tout brodé, et qu'elle portait le jour de son mariage, lui avait été enlevé.
« Allons, mes lords, » dit le roi en frappant des mains, « qu'on se hâte aux tâches que j'ai données et que chacun veille à son devoir. »
C'était l'expression habituelle, une formule encore qu'il croyait royale, par laquelle il marquait la fin de ses conseils. Il sortit, et chacun à sa suite, et la pièce se dépeupla. L'ombre commençait à descendre dans le cloître du prieuré de Kirkham, et avec l'ombre, un peu de fraîcheur entrait par les fenêtres. La reine Isabelle et Lady Mortimer n'osaient prononcer un mot, de peur de se mettre à pleurer. Seraient-elles jamais à nouveau réunies, et quel sort à chacune était-il promis? Le jeune prince Édouard, les yeux baissés, vint se placer silencieusement derrière sa mère, comme s'il voulait remplacer l'amitié qu'on arrachait à la reine. Lady le dispenseur s'approcha pour prendre le livre qui avait plu à son mari, un beau livre dont la reliure de velours était rehaussée de pierreries. Il y avait longtemps que l'ouvrage excitait sa convoitise. Comme elle allait s'en saisir, le jeune prince Édouard y abattit la main.
« Ah non, mauvaise femme, » dit-il, « vous n'aurez pas tout !»
La reine écarta la main du prince, prit le livre et le tendit à son ennemi. Puis elle se retourna vers son fils avec un furtif sourire qui découvrit à nouveau ses dents de petit carnassier. Un enfant de 11 ans ne pouvait être encore de grand secours, mais tout de même, il s'agissait du prince héritier.